Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Dans le rendez-vous d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner des éléments pour savoir comment couper les ponts. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous aujourd'hui, qui est un sujet pas évident parce que couper les ponts, c'est généralement pas avec joie qu'on le fait. Systématiquement, je dirais, c'est signe de souffrance. Je n'ai aucune personne qui soit venue me dire voilà, j'ai coupé les ponts et vraiment j'avais un plaisir fou à le faire. Souvent, on le prend comme une solution, et c'est peut-être le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter, alors que couper les ponts n'est pas une solution, c'est un moyen. Ça n'a rien à voir. Une solution, c'est comme un aboutissement, c'est le résultat d'une attente. Là, c'est un moyen parce qu'on n'arrive pas à trouver une autre voie, ou parce que c'est une voie d'essai. C'est tout à fait envisageable d'employer cette idée de voie d'essai, V-O-I-E, dans laquelle on va tenter quelque chose pour voir si ça peut participer à apporter un mieux-être à la solution que l'on souhaite. Mais vraiment, c'est important de l'employer comme un moyen. D'abord, peut-être remettre les choses en perspective, puisque nous avons eu deux rendez-vous sur la relation avec des personnes qui font preuve de toxicité dans leur verbe, dans la verbalisation, dans leurs paroles ou bien dans leurs actions. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ça pourrait être intéressant aujourd'hui de s'arrêter sur couper les ponts, parce qu'en fait, parfois on va très vite à l'étape « oulala, il me saoule, elle me saoule, il est toxique, elle est toxique, je coupe les ponts ». C'est plus difficile quand on a un parent, un frère, une sœur, une mère, et de se dire « bon, on va couper les ponts ». En général, ça demande davantage de réflexion, de prise de hauteur. Mais c'est plus facile avec un ami, un voisin, un collègue. Seulement, c'est important de, comme je dis, d'utiliser le terme de moyen quand il s'agit de couper les ponts pour essayer de comprendre ce que l'on veut dire, en fait. C'est un moyen qui a pour objectif d'arriver à une solution. Une solution par rapport à une possible toxicité. En général, on coupe pas les ponts avec des gens avec lesquels on s'entend très, 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 très bien. Comprenez, on va prendre une distance avec ces gens-là quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils ont des paroles qui sont pénibles, parce qu'ils ont des attitudes qui ne nous conviennent pas, ou peut-être parfois même des directions qui sont contraires à nos propres valeurs. Donc, pour plusieurs raisons, et je vais m'enchaîner des mobiles, je pense qu'il est judicieux de couper les ponts. Attention, je suis pas en train de dire que c'est le bonheur quand on coupe les ponts. Dès que quelqu'un vous prend la tête, vous saoule et que la relation a des aspects de toxicité, coupez les ponts. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est important de savoir couper les ponts aussi. Ça fait partie des moyens mis à notre disposition pour se dire, tiens, là, je vais couper les ponts. Mais à quoi ressemblera couper les ponts? Parce qu'en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on va couper toute relation? Si oui, comment? Jusqu'où? C'est pour ça que je m'arrête sur ce rendez-vous aujourd'hui. L'intention qui consiste à couper les ponts est de prendre une certaine distance. Il y a aussi la possibilité de vouloir prendre de la hauteur, de vouloir se centrer sur ses émotions, de prendre conscience qu'on n'a rien à voir avec l'attitude de la personne. On n'est pas responsable de ses paroles, de ses actes. C'est elle qui est en train de lutter avec elle-même, avec quelque chose qui lui appartient. Couper les ponts est aussi un moyen pour poser des limites, mais également pour se ressourcer soi-même et pour demander de l'aide. Vous avez compté, il y en a 7. Prendre de la distance, prendre de la hauteur, se centrer sur ses émotions, prendre conscience que l'on n'a rien à voir avec le dysfonctionnement de la personne qui est en toxicité dans ses paroles ou dans ses actions, se ressourcer soi-même et demander de l'aide. Quand vous avez choisi de couper les ponts, je souhaite vivement que vous soyez dans cette dynamique-là, dans cette prise de conscience-là, dans cette cohérence de cheminement qui fait que vous ne coupez pas les ponts parce que vous ne voulez plus voir la personne, parce que vous ne la supportez plus, parce que vous voudriez qu'elle meure, qu'elle disparaisse de votre paysage. Et parce que vous voulez prendre de la distance, de la hauteur, vous centrer sur vous-même, prendre conscience du fait que vous n'êtes pas concerné par ce qu'elle vous dit, pose des limites, vous ressourcer et demander de l'aide. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Finalement, quelque part, ces sept éléments qui vous permettent d'assainir votre motivation permettent vraiment de clarifier une réalité relationnelle et une réalité relationnelle avec vous-même d'abord. Les deux rendez-vous précédents, j'ai insisté sur l'importance de la bienveillance. Je continuerai à le faire là maintenant. C'est faire preuve de bienveillance envers vous-même d'abord que de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de vous centrer sur vos émotions, d'être conscient que ça n'a rien à voir avec vous, de poser des limites, de vous ressourcer et de demander de l'aide. Mais c'est aussi faire montre de bienveillance vis-à-vis de la personne que d'être capable et de savoir couper, prendre de la distance, de la hauteur, etc. Centrer sur vous-même, vous ressentir vos émotions, vous ressourcer et demander de l'aide. Vous êtes a priori deux bénéficiaires, mais encore une fois, comme c'est le cas systématiquement, vous êtes le premier bénéficiaire de cette démarche quand elle est bienveillante. Évitez de couper les ponts sur un coup de tête. Dire j'en ai vraiment ras-le-bol, je ne peux plus le supporter, j'en ai marre qu'il soit là, j'en ai marre qu'il me dise ça, je ne veux plus le voir. Parce que si vous faites ça sur un coup de tête, qu'est-ce qui risque de se produire ? Eh oui, la culpabilité et le regret, ou le remords. La culpabilité, c'est pas top, parce que vous allez, baigner dans votre jus, de vous dire, bah ouais, mais bon, j'ai fait ça, mais en même temps, quand même, vu que, mais bon, finalement, ouais, c'est cette sorte d'aller et venu vers les mobiles, ce qui vous a poussé à prendre ces décisions, puis en même temps, la prise de conscience, que c'est quand même exagéré ou que c'est excessif. On ne prend pas de décision importante quand la charge émotionnelle est importante. Parce que quand la charge émotionnelle est élevée, la capacité de raisonnement, d'analyse, de jugement a diminué. On va attendre que l'émotion soit redescendue pour pouvoir profiter de sa capacité d'analyse, de réflexion et de décision. Et puis, je parlais de remords, parce que évidemment, c'est l'engrais qui permet d'arroser la culpabilité. Alors là, vous avez des plans de culpabilité qui poussent à une vitesse incroyable. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il soit sous serre ou en plein air, du remords qui vient arroser la culpabilité, qui déjà en elle-même pousserait très bien. Ben vous avez un verger magnifiquement piquant, odorant, malodorant plutôt, qui pousse dans votre intérieur, qui est vraiment désagréable. Donc évitez de prendre des décisions de coupure relationnelle sur un coup de tête. Mieux vaut que votre décision soit mûrie, réfléchie, avec une charge émotionnelle la plus basse que possible. Ensuite, vous avez le choix de verbaliser ou de ne pas verbaliser votre choix de coupure relationnelle. Ou plutôt, je préfère l'expression de prise de distance plutôt que de coupure relationnelle. Même si prise de distance, c'est le premier point que j'ai mentionné, mais j'ai intitulé ce rendez-vous « Savoir couper les ponts », je préférais dire « Savoir prendre de la distance ». Mais comme l'expression est courante, voilà, j'ai coupé les ponts, il a coupé les ponts, j'ai préféré utiliser celle-là. Mais je préfère prendre de la distance. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans les sept motivations que j'ai présentées, les deux premières, la première c'est prendre de la distance, la deuxième c'est prendre de la hauteur. On a encore de la distance. D'accord ? Poser des limites également, qui est la cinquième. Donc, c'est important de prendre de la distance plutôt que de dire on va couper, parce qu'en fait, on a l'impression de parfois nourrir une culpabilité en disant, alors j'ai coupé les ponts, quoi. Il n'y a plus de communication possible. Là, quand vous avez pris la distance, la communication est encore possible. Les ponts existent. D'ailleurs, en situation de guerre, quelles sont les premières cibles qui étaient frappées ? Les aéroports. Parce qu'on cible un moyen de communication. Les gares, pour les mêmes raisons, on cible un moyen de communication. Et les ponts, parce qu'on cible un moyen de communication. C'est pour ça que cette expression « couper les ponts » a autant de prise dans notre réalité collective européenne, parce qu'on a vécu deux guerres, puis en plus il y en a une en ce moment avec l'Ukraine. Voilà, où d'ailleurs la gare a été bombardée, ben comme par hasard, et puis l'aéroport, enfin bref. Donc c'est tout à fait légitime qu'on ait cette expression « couper les ponts ». Même si je préfère prendre de la distance, ça veut dire qu'on va laisser les ponts en place, on va laisser l'aéroport en place, on va pas le toucher, on va laisser la gare et les moyens de communication, les canaux vont rester en l'état. C'est juste nous qui allons les utiliser autrement. Voilà. Mais je reviens sur, verbaliser ou non le choix de prendre de la distance. Vous pouvez, si vous êtes en mesure de le faire, verbaliser cela, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il est possible de le faire par écrit. Il est possible de le faire pour soi-même sur son cahier de vie, et je vous encourage à continuer à utiliser le cahier de vie, et je vous mets un petit lien dans la retranscription de ce rendez-vous si vous voulez savoir de quoi je parle quand je parle de cahier de vie, pour verbaliser de toute façon votre décision, qu'elle soit verbalisée à l'intéressé ou aux intéressés, ou qu'elle soit verbalisée pour vous qui êtes le premier intéressé. Premier intéressé, j'ai fait une liaison mal à propos, comme on dit. Pour vous qui êtes le premier intéressé. Donc, verbalisez-le, mettez des mots dessus, en disant « je choisis de prendre la distance parce que je veux prendre la distance, prendre de la hauteur, me centrer sur mes émotions, ne pas le prendre pour moi-même, poser des limites, me ressourcer et demander de l'aide. Et je veux le faire parce que j'ai telle intention, parce que je souffre de telle et telle manière, parce que j'ai besoin de prendre la capacité de regarder les choses autrement, parce que, etc. » Donc verbalisez-le pour vous, vous êtes le premier bénéficiaire à la verbalisation. Ensuite, le choix de le verbaliser aux intéressés est secondaire. Vous pouvez le faire si vous vous sentez en mesure de le faire, comme vous pouvez ne pas le faire. Personnellement, j'encourage à le faire. Parce que c'est bon pour vous. L'idée n'est pas que l'autre vous comprenne en disant « oui, je comprends tout à fait que tu veuilles prendre la distance et couper les ponts, donc oui, tout à fait, vas-y, fais-le ». Vous n'êtes pas en attente d'autorisation, vous n'êtes pas en attente de validation, vous le faites pour vous. Cette verbalisation est pour vous. Donc même si vous le verbalisez à l'autre personne, qu'il soit d'accord ou pas, qu'il vous envoie des pics ou pas, vous pouvez le faire. Si vous craignez qu'il vous envoie des pics, eh bien faites-le par écrit. Attention, les écrits restent. Donc comme je l'ai déjà dit depuis 3 semaines, faites preuve d'une vraie bienveillance. Écrivez plusieurs fois, réécrivez, de manière à ce que la personne en face comprenne que vous l'aimez, que vous tenez à être bienveillant envers elle. Et que cette prise de distance n'est pas liée à cause d'elle. Alors je sais que là, je vais m'arrêter quelques secondes dessus. Mais pour vous. Si vous continuez à verbaliser ou à rédiger votre lettre en donnant l'impression à l'autre personne que c'est parce qu'elle est pénible, toxique, que vous avez coupé les ponts, vous êtes dans une approche irrationnelle. Parce qu'en réalité, cette personne pourrait avoir la même attitude avec quelqu'un d'autre, sans que ce soit considéré comme étant toxique, pénible, inacceptable, blessant. Vous voyez ? Vous vous sentez blessé, vous vous sentez remis en question, vous trouvez pénible. Et dans la mesure où vous êtes conscient de cela, c'est pertinent de le verbaliser en « je ». Ça veut dire que ce n'est pas la remise en question de la personne ou la remise en cause de la personne. C'est pas une manière de lui écrire en lui disant que j'aimerais bien que tu n'existes pas. Ou j'aimerais que tu sois tellement différente que et je ne t'aimerais qu'à condition, ou je ne remettrais la relation qu'à condition que tu sois véritablement différente. Non. C'est pour vous préserver, vous. Vous avez remarqué que dans les 7 points, c'est pour prendre de la distance, prendre de la hauteur. Vous-même, c'est vous qui prenez de la distance. C'est vous qui prenez de la hauteur. C'est vous qui vous centrez sur vos émotions. C'est vous qui prenez conscience que ça n'a rien à voir avec vous-même. C'est vous qui posez vos limites, c'est vous qui vous recentrez sur vous, qui vous ressourcez vous-même, et c'est vous qui demandez de l'aide, indépendamment du profil de la personne. Finalement, vous profitez quelque part, je le formule ainsi pour vous aider à mieux le comprendre, vous profitez de la prise de conscience de votre sensibilité à l'attitude de l'autre que vous considérez comme étant toxique à votre égard, pour vous construire vous-même. Finalement, je ne vais pas vous dire de la remercier dans votre courrier, mais il y a peut-être une prise de conscience liée à une opportunité pour dire « si je suis sensible, si je suis fragile, c'est que j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de prendre de la hauteur pour réaliser pourquoi ça me fait ça, qu'est-ce que je sens blessant là-dedans ». Ça n'est pas seulement que la personne est blessante, si tant est qu'elle est, qu'elle le soit, mais c'est que je le perçois comme tel. Le percevant comme tel, je me pose des questions pour savoir « Pascal, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Pourquoi ça te fait ça ? Pourquoi ressens-tu cela ? Pourquoi as-tu cette blessure qui t'a vif ? Pourquoi as-tu cette impression d'être pourri quand la personne est en ta présence ou formule telle et telle chose ?» Parce que ça vous apprend des choses sur vous-même. C'est cette opportunité pour apprendre de vous-même. Apprendre sur vous-même et changer vous-même. Alors quand je suis dans une démarche d'accompagnement avec des personnes et qu'on arrive à ce stade-là, elles se disent « mais c'est quand même pas normal ». Parce que si je comprends bien, vous me demandez à moi de changer alors que c'est la personne qui est toxique. Et oui, j'entends cette impression d'injustice. Seulement, quand vous allez changer, est-ce que vous changerez en mal? Est-ce que ce sera à votre défaveur, ce changement? Non, il sera bénéfique pour vous. Il sera bénéfique dans la relation avec la personne que vous considérez comme étant toxique, mais il sera aussi bénéfique dans des relations à venir avec de potentielles autres personnes dont les paroles et les actes seront toxiques. Donc, qui est bénéficiaire du changement? C'est vous. Alors pourquoi vous priver de changer? Vous entendez la pertinence et le sens, la motivation qui va vers le changement. Donc cette démarche de prise de distance, de hauteur, de centration sur vous-même, de pose de limite, de vous ressourcer, de demander l'aide, c'est pour vous changer vous-même parce que c'est bénéfique pour vous. Ensuite, vous allez travailler sur les modalités de ce savoir couper les ponts. Comment vous allez le vivre? Comment vous allez envisager cette prise de distance? Alors d'abord, comme j'ai dit, on va garder les canaux de communication. Le réflexe aujourd'hui avec le téléphone portable, c'est de dire « je vais le blacklister » ou « je vais le supprimer de mes contacts » ou « le bloquer ». Vous pouvez le faire. Seulement, réfléchissez en amont, toujours à la tête froide, on a dit d'éviter le coup de tête, pour savoir pourquoi vous le faites, quelle est votre motivation, dans quel but vous le faites. Que ça rentre dans les modalités. Parce que dans ces modalités, vous pouvez vous dire, alors, je vais décider de la durée de la suspension. C'est pas forcément être vitam aeternam. Et du coup, on va se reposer la question de temps en temps, en disant, alors, est-ce que les signes que je voulais voir, ou est-ce que, voir en moi, c'est pas les signes que je voulais voir en l'autre, est-ce que les signes que je voulais voir en moi sont présents? Est-ce que je me sens maintenant en mesure de? Si je réponds oui, eh bien, on va revenir à, on va passer à une étape supérieure, ou bien si je réponds non, on va conserver les choses en l'état. Si je réponds non, on va se poser la question de savoir pourquoi je ne me sens pas encore en mesure de redébloquer son numéro de téléphone. Parce que ça veut dire que je ne suis pas en mesure de pouvoir lui répondre et pouvoir peut-être lui dire non, lui poser des limites, ou lui dire écoute, je trouve inacceptable ton attitude, ou lui dire écoute, je ne sais pas pourquoi, ou bien continuer, comme on l'a dit la semaine dernière, à poser des questions ouvertes. Si je ne suis pas en mesure de le faire, je peux profiter de ce temps pour continuer à travailler tant que ce nom est bloqué dans mon répertoire téléphonique. Sinon, je le débloque. Et quand la personne m'appelle, je peux répondre et lui dire « J'entends que tu me dis ceci et cela, qu'est-ce qui t'amène à me dire ça? Quelle est ton intention quand ceci et cela? Pourquoi es-tu motivé dans ta démarche à me dire ceci et cela ?» Deuxième élément de la modalité, c'est qu'on peut décider d'une distance géographique. Donc, si c'est un voisin, si c'est un membre de la famille, on peut choisir aussi de créer une distance géographique symbolique. On n'est pas obligé de déménager soi-même. On va pas dire je vais déménager parce que ça ne parle pas avec mes parents ou avec mon ex. Mais on peut finalement symboliser cette distance géographique en se disant je vais moins fréquenter son environnement et je veillerai à ce qu'il fréquente moins le mien, ou je ne vais plus fréquenter son environnement et qu'il ne fréquente plus mon environnement. Si vous avez des amis en commun, de connaissances communes, vous pourrez vous accorder. Attention de ne pas nourrir et arroser les pensées d'hostilité. Je rappelle que c'est avec de la bienveillance, l'idée que vous allez prendre de la distance. C'est pas pour parce que vous le détestez, ou parce que vous voulez plus le voir, ou parce que vous espérez qu'il ait disparu. Vous pouvez aussi travailler sur une modalité de fréquence, en disant, ok, je veux bien le fréquenter, le croiser et discuter avec lui ou avec elle. Seulement, je voudrais, parce que j'ai pris conscience de mon seuil d'acceptabilité, je voudrais me mettre en lumière une notion de fréquence. Je le supporterai si c'est une fois par semaine, ou si c'est tous les 15 jours, ou une fois par mois. Si c'est au-dessus, eh bien, je n'arriverai pas à le faire. Et vous entendez que je suis encore en jeu, c'est-à-dire que je prends conscience de ma propre limite à supporter, à accepter, à prendre de la hauteur, à prendre de la distance. Par conséquent, pour me protéger, moi, je vais choisir une fréquence. Et je vais rester attentif aux signaux d'alerte qui sont présents en moi. Parce que quand je me rends compte qu'en pensant à la situation, la charge émotionnelle personnelle a diminué, ou que je n'ai plus le sentiment que s'il me disait « Attends, mais t'es toujours incapable d'être à l'heure », je vais prendre le même exemple que la semaine dernière, et que je ne suis plus affecté par cette phrase, mais que je suis en mesure de lui poser des questions ouvertes, je me dirais « Ben ça y est Pascal, tu es en mesure de te rapprocher peut-être, de réaugmenter la fréquence, ou bien de tenter un essai d'augmentation de fréquence, ou de rouverture de la ligne, etc. » toujours avec bienveillance, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. Parce que la bienveillance participe à semer aussi de la gratitude en moi, en soi. Donc faites cette démarche avec bienveillance. Que vous décidiez de prendre de la distance, de baisser la fréquence ou la durée des entretiens, ou de couper les ponts de manière vraiment plus ferme, je vous encourage à ne pas le faire de manière définitive pour garder à l'esprit l'ouverture et à prendre conscience qu'en fait, cette prise de distance, elle est bénéfique pour vous. Ce n'est pas la punition ou l'incarcération de l'autre. Ce n'est pas une punition pour vous-même ou une auto-incarcération, mais que cette prise de distance soit faite pour que vous puissiez vous construire, vous reconstruire et vivre de manière plus épanouie, plus équilibrée, après que vous ayez vécu ces phases de déséquilibre avec cette personne dont les paroles ou les actions étaient toxiques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce rendez-vous et vous souhaite de savoir vous construire, vous reconstruire pour votre bien. Si vous avez besoin, parce que vous avez pensé à quelqu'un, peut-être avec laquelle vous avez coupé les ponts, de partager ce rendez-vous, envoyez-le lui. Parce que ça vous permettra aussi peut-être d'être mieux compris, en plus de mieux vous comprendre vous-même. J'attends votre commentaire, vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr, vos questions si vous en avez sur le blog heureuxauprésent.com.